pense que les chercheurs sont confrontés à une possibilité d'écriture et réciproquement, les écrivains à une possibilité de connaissance. Parce que ce que j'appelle les écrits du réel, autobiographie, biographie, grand reportage ou encore témoignage, tous ces écrits du réel sont un petit peu un lieu d'explication du réel. Je milite en tant qu'historien, en tant qu'éditeur, en tant qu'écrivain peut-être, pour une nouvelle manière de parler du monde.
Le plaidoyer de l'historien écrivain Yvan Jablonka, auteur de Laetitia l'an dernier, mais également de l'histoire est une littérature contemporaine pour un mélange des genres et des disciplines. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une enquête syrienne. Installée à Beyrouth, après Jérusalem et New York, la romancière Justine Auger vient d'être récompensée du prix Renaudot Essai pour De l'ardeur chez Actes Sud, livre enquête sur la disparition d'une avocate syrienne. Razan Zeytouneh, militante des droits de l'homme, a passé sa vie à se protéger des intrusions du régime de Damas dont elle a documenté les dérives et les crimes commis dans son pays, mais aussi ceux des groupes armés quand la révolution pacifique de 2011 tourne à la guerre civile. Figure de la dissidence, elle s'applique à effacer les traces qu'elle peut laisser, puis vivra cachée avant d'être enlevée en décembre 2013, après 2 ans et demi de conflit seulement. Un portrait de l'absente et dans son ombre, celui d'un pays en proie au crime permanent. Justine Auger, bonjour.
Bonjour.
Beyrouth, où vous avez vécu jusqu'à la rentrée dernière, a connu une semaine assez folle, entre rumeurs et regains de tension, depuis la démission surprise de Saad Hariri, démissionnaire puis disparu, le Premier ministre libanais, est sorti hier de son silence. Il n'est pas encore rentré. Il a parlé depuis l'Arabie Saoudite pour annoncer un retour prochain au pays. On voit juste à travers cette histoire, cette actualité, que toute la région, dont la Syrie, à laquelle vous vous intéressez à travers ce livre « Enquête de l'ardeur », l'équilibre est très fragile encore.
Oui, en tout cas au Liban, c'est certain. Les Libanais vivent toujours dans l'idée que tout peut basculer d'un moment à un autre. Il y a toujours cette incertitude qui est au cœur en fait de la vie des Libanais. Aujourd'hui, il est assez difficile de dire. Enfin, tous les gens qui s'intéressent à la région sont vraiment perplexes. C'est très compliqué de faire des pronostics, de comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qui est certain, c'est que personne n'a intérêt aujourd'hui à voir un Liban déstabilisé dans la région.
Dans ce paysage en décomposition, il y a donc des figures fortes qui émergent, figures politiques à laquelle les peuples sont attachés, comme celle de Saad Hariri, et des figures militantes aussi. C'était le cas, ou c'est le cas, de la très discrète mais courageuse et déterminée Razan Zeytouneh. Elle en fait partie, et c'est à elle que vous consacrez aujourd'hui ce portrait, ce livre enquête. Alors pourquoi elle? Vous dites, sous votre plume, qu'il y a des points de résonance que vous avez trouvés, que vous avez rencontrés, entre elle et vous, quelque part, en tout cas des réflexions que vous meniez jusqu'ici. Pourquoi avoir choisi de la raconter elle et pas une autre ou un autre?
D'abord, ça tient un peu au hasard, puisque je l'ai découverte dans un documentaire dans lequel elle n'apparaît que quelques secondes, quelques mois avant son enlèvement. Elle est déjà donc dans la ville de Douma où elle pense avoir trouvé refuge. Et elle est extrêmement usée physiquement par des années de clandestinité et de lutte. Mais il continue de se dégager d'elle une force qu'on ne peut pas ne pas voir. Et à la fin du film, on apprend donc sa disparition qui correspond plus ou moins en fait en cette fin d'année 2013 à la fin des espoirs en ce qui concerne également la révolution. Donc j'ai déjà été très intéressée par la façon dont la trajectoire de la révolution syrienne et la trajectoire de Razan Zeytouneh étaient liées. Et ensuite, j'ai commencé à interroger des gens à son sujet et j'étais très frappée en fait par le fait que je pouvais encore entendre dans ces témoignages ce qu'avait fait à ces témoins la présence de Razan, qui était une présence vraiment extrêmement particulière. Et ça se mêlait aussi aux souvenirs des premiers jours du soulèvement, à la beauté de ces journées-là. Et en fait, autant de choses, enfin, cette intensité, cette énergie, cette beauté du soulèvement, autant de choses auxquelles le régime de Bachar el-Assad n'a cessé de s'attaquer. Et qu'il a fini par réussir à faire disparaître. Voilà, donc il me semblait très important d'essayer de raconter ça.
Ce sont, Justine Augier, les premières lignes de votre livre. Dans le prologue, j'ai cherché à restituer ici l'histoire de Razan Zeytouneh, dissidente syrienne disparue sans laisser de traces dans la nuit du 9 au 10 décembre 2013 à Douma, ville de la banlieue de Damas où elle pensait avoir trouvé refuge. Restituer, écrivez-vous, restituer une histoire forcément lacunaire parce que la Syrie est encore en guerre aujourd'hui, impossible de s'y rendre pour enquêter et parce que la personne dont vous faites le portrait, bien qu'étant une militante active, a aussi toujours fait le choix de l'ombre, écrivez-vous. Comment avez-vous procédé du coup ?
Alors il y a une difficulté qui s'ajoute à celle-ci, c'est que je n'avais jamais été, je ne suis jamais allée en Syrie. Donc il y a eu un grand travail de recherche, un grand travail documentaire. J'ai lu beaucoup de choses sur la Syrie, j'ai parlé à énormément de témoins et surtout j'ai fait le choix assez rapidement de ne pas tenter de combler ces vides qui apparaissaient. Et il faut peut-être rappeler que le travail de Razan Zeytouneh, c'est essentiellement un travail de documentation qu'elle mène depuis le début des années 2000 contre le régime de Bachar el-Assad, parce qu'elle est avocate, mais évidemment le régime laisse très peu de place à cette pratique. Donc c'est essentiellement un travail de documentation qu'elle mène sur les violations commises par le régime, et elle développe véritablement une connaissance assez incroyable de la société syrienne. Mais donc elle a un souci, une morale de l'exactitude qui est extrêmement, extrêmement fort, enfin un rapport même au vrai face à un régime qui lui cultive le mensonge, l'opacité. Elle a un rapport au vrai qui est vraiment une forme d'éthique. Et ça, cette attitude-là, il me semblait aussi important de la faire vivre un peu dans mon travail à moi. Donc évidemment, il y a une sorte de reproduction de son approche, de sa méthode et de sa tentative de faire vivre cette morale de l'exactitude.
Donc il y a cette documentation que vous parviendrez à retrouver, il y a aussi les témoignages de ses proches, famille, amis, beaucoup sont aussi aujourd'hui exilés, réfugiés au Liban voisin, il y a à peine 2h30 de route entre Beyrouth et la frontière syrienne, en passant par la Bekaa, ce sont des pays qui sont très proches et où on communique beaucoup de familles qui sont partagées même encore entre les deux pays. Vous évoquez son idéalisme et son engagement radical sans faille. Quels étaient ces combats ? Parce que ce qui est intéressant dans sa manière à elle de compulser, de réunir un maximum de documentation depuis le début des années 2000, c'est aussi qu'elle a l'idée qu'un jour peut-être tout ça, elle est avocate, hein, tout ça servira, peut-être qu'un jour justice sera rendue et que pour ça il faudra de la matière à ce moment-là, il faudra des preuves presque.
Tout à fait, il y a vraiment cette partie-là, enfin son travail à ce sens-là, un sens d'abord juridique. Mais ensuite, il faut rappeler qu'on a affaire à un régime, le régime de Bachar el-Assad et avant ça de son père, qui a toujours tenté d'effacer la mémoire. Ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre, pour comprendre aussi la révolution. C'est-à-dire que le slogan du régime, c'est al-Assad pour l'éternité. Donc il y a vraiment une tentative d'arracher le peuple syrien à son historicité et à cultiver l'oubli. Et donc tout ce travail de documentation, d'élaboration d'une mémoire, c'est vraiment une forme de résistance et qui va devenir extrêmement important quand la révolution va commencer. On voit vraiment les Syriens tenter de se réapproprier leur histoire, de faire revivre des épisodes extrêmement sombres de leur histoire, d'ailleurs, dont ils n'ont pas parlé pendant des années, dont notamment le soulèvement de la fin des années 70, début des années 80, qui a été réprimé extrêmement violemment, qui est un peu une sorte de répétition, en fait, de ce qui s'est passé plus tard. Et donc son travail de documentation, il a aussi ce sens-là, qui est fondamental dans le contexte syrien.
Peut-être un petit mot sur l'effacement de l'histoire, parce qu'on comprend bien l'effacement de l'histoire, les exactions du régime Assad, mais il y a aussi un effacement de l'histoire de la Syrie d'avant. Pour quelles raisons est-ce que si important pour le régime de le faire ça, et comment est-ce qu'elle pouvait éventuellement contrebalancer aussi cette mémoire défaillante ?
C'est important parce que c'est un régime qui ne peut pas penser sa fin. Enfin, c'est un régime totalitaire qui s'imagine vraiment. Je pense qu'il y a vraiment une forme de folie. Enfin, qui s'imagine vraiment être là pour l'éternité probablement. Donc cette façon d'empêcher les Syriens à la fois de raconter la mémoire collective, mais également même l'histoire de chacun en son nom, l'histoire des prisonniers, etc. C'est vraiment c'est inscrit très profondément dans le génome du régime. Et que faire si ce n'est face à ça élaborer patiemment une documentation donc qui a cette visée juridique bien sûr, mais au-delà de ça qui permet aux Syriens de se réapproprier leur propre histoire. Donc c'est un travail qu'elle mène avec une minutie.
Comment elle procède justement pour avoir ces documents, parce que c'est
vrai. Alors dans les années 2000, elle fait un travail fou, c'est-à-dire qu'elle se déplace énormément en Syrie pour aller rencontrer toutes les familles qui sont concernées, qui ont des prisonniers qui sont dans les prisons syriennes. Donc c'est énorme. Et surtout dans les années 2000, ces prisonniers-là sont des prisonniers islamistes. Donc ça lui ouvre une porte vraiment vers une réalité sociale et géographique même qui est extrêmement différente de la sienne. Elle vient de la classe moyenne de Damas. Elle est entourée d'activistes des droits humains. Donc autant vous dire que c'est assez différent, même s'ils sont... Ce sont tous des opposants au régime, mais enfin, ils ont des projets politiques très, très différents.
Classe moyenne, conservatrice et modérément religieuse.
Alors, ça, c'est sa famille qui est conservatrice et modérément et religieuse.
Sur sa famille, oui.
D'où elle vient. Razan, elle est profondément laïque. Mais en tout cas, ça lui donne une connaissance, et elle a cet appétit véritable de comprendre la société syrienne dans toute sa diversité. Ce qui la rend, alors en termes d'engagement, extrêmement singulière. C'est-à-dire que son engagement n'est jamais un engagement simpliste, binaire.
Partisan.
Elle développe vraiment ses propres idées sur les choses. Elle a une vision du monde jamais contrainte, et sans doute d'ailleurs... Est-ce la raison pour laquelle tant de personnes se sont acharnées à la faire disparaître ? Puisque le régime d'abord, mais ensuite ceux-là même qu'elle avait aidés, c'est-à-dire les islamistes, que le régime a aidé enfin, le régime a quand même libéré l'homme qui est à la tête du groupe qu'on soupçonne d'avoir enlevé Razan Zaitouni en juin 2011. Il a été libéré par le régime. Et en fait, il y a comme une alliance objective qui se crée entre ces forces-là pour faire disparaître une femme qui est profondément libre et qui dérange.
Selon vous, elle a été enlevée par une opération décidée par le régime
Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire.
Qu'est-ce qu'on sait de cette disparition?
Cette disparition, au cœur, a priori, donc quand elle arrive à Douma, cette ville de la banlieue de Damas, les forces en présence la situation est extrêmement changeante, mais petit à petit, dans les mois pendant lesquels elle est là-bas, c'est un groupe salafiste qui prend le pouvoir. C'est un groupe qu'elle dérange profondément parce qu'elle cherche à faire vivre les institutions civiles de Douma, mais aussi parce qu'elle commence à documenter les exactions commises par l'opposition. Donc là, on voit encore bien à quel point c'est quelqu'un qui a vraiment une façon de procéder qui lui est très, très particulière. Et donc, a priori, c'est ce groupe qui a organisé son enlèvement. C'est pas le régime, mais ce que je veux dire, c'est que le régime et ce groupe se retrouvent dans cette même volonté de faire disparaître Razan, et avec elle une vision du monde complexe et libre.
Révoltée dès son plus jeune âge, libre et laïque, elle va étudier le droit, la défense des prisonniers politiques, vous l'évoquez, est la matrice de son militantisme. Elle va être repérée assez vite par le régime et c'est Moura Barat dès le début des années 2000. Elle sera ensuite, effectivement, elle se fera ennemie ou opposante des insurgés. Donc elle a beaucoup d'ennemis, en tout cas cette femme, c'est ce qu'on comprend, jusqu'au jour de son enlèvement. Vous écrivez à l'époque, je pense que Razan peut encore revenir, remonter, ce en quoi il me faut le dire d'entrée, je ne crois presque plus, l'espoir infime relevant de la seule précaution rationnelle. Razan Zaitouni a ou aurait eu 40 ans, parce que personne ne sait aujourd'hui encore si elle est vivante ou morte, il n'y a pas eu de preuve dans un sens comme dans l'autre.
Non, il n'y a aucune preuve, donc depuis presque 4 ans maintenant, il y a des rumeurs. La Syrie est un pays dans lequel il y a énormément de rumeurs. Ma conviction, en tout cas, quand j'ai commencé ce livre, c'était qu'elle ne reviendrait pas. Et d'ailleurs, sinon, sans doute, n'aurais-je pas commencé à écrire ce livre. Après, j'ai, en découvrant ses proches, donc les proches des disparus sont toujours dans une situation impossible, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire le deuil du disparu. Yassine Haj Saleh, qui est un grand intellectuel syrien, parle de crime permanent, en fait, au sujet de la disparition, qui est une pratique du régime depuis bien longtemps et qui a commencé avant même la répression de la révolution. Et donc, ses proches continuent d'espérer, continuent d'inventer des scénarios impossibles et continuent, malgré tous les signaux qui sont envoyés par la réalité, de cultiver l'espoir, ce qui me semblait au début assez fou. Mais je dois dire que aujourd'hui, je trouve que cette folie est assez belle. Ce qui risque de se passer, ce à quoi je pense beaucoup aujourd'hui, c'est que la Ghouta, donc on en parle à nouveau en ce moment un petit peu parce qu'il y a ce siège qui se resserre et qui a des conséquences de plus en plus dramatiques. On a vu des photos il y a quelques jours de ces enfants affamés. Donc Bachar al-Assad risque de reprendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre dans cette région. Et si Razan a disparu de façon définitive, comme je le suppose, c'est le régime qui va nous donner sa version des faits. Donc il y aura toujours un doute sur ce qui s'est passé réellement.
Razan Zeitouni a donc été enlevé dans la banlieue nord de Damas à Douma. C'était le 9 décembre 2013, quelques jours avant, 5 jours avant, le 4 décembre 2013. Elle a enregistré un message vidéo qu'elle a envoyé à la Fédération internationale des droits de l'homme, à la FIDH. Dernière vidéo datée donc du 4 décembre, sur laquelle on la voit amaigrie, dites-vous, les traits tirés, les cheveux presque gris, elle qui avait un visage si radieux et souriant. Et cette vidéo est en ligne. On va écouter ce qu'elle nous dit.
My name is Razan Zeitouni, human rights activist from Damascus. I based now in East Ghouta in the Damascus suburbs. The area has been liberated from the regime forces, but we experience daily bombings from the regime forces, especially from the Meg. At least 3 or 4 people killed daily in the city of Douma. But perhaps this type of death is preferable to the alternative. The other kind of death is slow and painful because you experience it every second. You see it everywhere. It's the siege. The lack of food, medicine, and oil.
Dans ce testament vidéo, elle dit « Je m'appelle Razan Zeitouni, défenseur des droits de l'homme damascène. J'habite actuellement à Douma, dans la banlieue est de Damas. La zone a été libérée de l'emprise du régime, mais ce dernier nous bombarde chaque jour. Au moins 2 ou 3 personnes sont tuées quotidiennement à Douma. Mais peut-être cette mort est-elle préférable à l'autre mort? L'autre mort est lente et douloureuse, car vous la ressentez à chaque seconde. Vous la voyez partout. » C'est le siège. Et elle décrit ensuite, pendant 3-4 minutes, le quotidien de cette ville en siège, l'impact aussi de ce siège sur les enfants, la famine qui commence à y sévir. C'est un vrai cordon qui a été créé autour de cette ville. Et cette vidéo, testament, se termine sur ces mots.
Nothing, not even over 100,000 deaths, or harsh siege, or the betrayal of the international community can ever defeat the will of people who has a dream and faith in the future. For all of those brave people, I bow in respect. So, let's keep working together to get their life less suffering and their future more available. Thank you to everybody for giving me this chance to get my message out.
Voilà, le message est passé. Rien, pas même 100 000 morts, pas même un siège harassant, pas même la trahison de la communauté internationale. Rien ne pourra jamais vaincre la volonté de ceux qui ont un rêve et qui croient en l'avenir. Devant tous ces gens-là, je m'incline respectueusement. Continuons donc à travailler ensemble pour rendre leur vie moins pénible et leur futur plus accessible. Merci à tous, dit-elle. Voilà comment cette vidéo se termine sur ces mots de la militante Razan Zeitouni. France Culture, de l'ardeur chez Actes Sud avec la romancière Justine Augier, Vie et disparition d'une figure de la dissidence syrienne, prix Renaudot Essai cette année.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Justine Augier, elle voulait éprouver son appartenance à l'histoire syrienne. Elle n'a jamais voulu partir, écrivez-vous, à travers sa vie. C'est toute l'histoire de la Syrie contemporaine aussi qui se raconte. Qu'est-ce qu'elle représentait aux yeux des autres? On a le sentiment qu'elle représente à la fois l'histoire de la Révolution. Elle y était dès les premiers jours, militante pacifique, quand il a fallu lever le poing, espérer en Syrie une sorte de printemps arabe qui se répéterait. Elle représentait aussi l'histoire d'un rêve. C'est ce que dit d'elle le militant et avocat des droits de l'homme, ancien prisonnier, ami, Mazen Darwish. Elle était un symbole, une icône pour de nombreux manifestants, pour ceux qui ont cru à un changement en Syrie à cette époque-là, en 2011.
Je pense qu'elle était une icône. Je pense qu'elle avait, enfin, au-delà d'être une icône, elle avait un rôle très clair dans la Révolution. C'est-à-dire que d'une part, elle avait un rôle d'inspiratrice, parce qu'elle a beaucoup écrit. C'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, des articles, et elle les a écrits au jour le jour au début de la Révolution. Et je pense qu'ils venaient à leur tour nourrir, en fait, l'élan révolutionnaire. Donc ça, c'est une chose très importante. Et puis ensuite, la façon dont elle avait quand même noué des relations partout, un peu partout en Syrie, avec la société civile, lui a permis de créer les comités de coordination locaux, partout dans le pays, qui ont organisé la révolution dans les premiers mois, qui ont été vraiment une institution, enfin une organisation tout à fait centrale. Et je voudrais revenir à ce désir d'appartenance qui est extrêmement fort, enfin que je vois comme quelque chose de vraiment central chez elle. Et je pense que c'est en grande partie là que se joue son engagement, dans cette envie de comprendre la société syrienne et d'éprouver son appartenance à cette société. Et dans le petit extrait qu'on a entendu de la vidéo, c'est ça qui me touche beaucoup. C'est-à-dire que quand elle prend la décision d'aller à Douma, elle aurait pu partir, elle aurait pu quitter le pays à ce moment-là. Elle y va parce qu'elle croit encore qu'il est possible d'inventer la Syrie libérée, etc. Mais elle a envie, avant tout, je pense, de partager le sort des Syriens. Et encore une fois, quand elle est victime de ce siège qu'elle décrit, et il faut se souvenir que c'est il y a 4 ans, donc ça fait, voilà, depuis 4 ans, ça n'a cessé d'empirer. Encore à ce moment-là, elle a eu des possibilités de partir. On lui a offert des possibilités de s'enfuir, ce qu'elle a refusé de faire. Et donc là, je ne sais pas à quel point c'est peut-être un manque de lucidité sur ce qui allait se passer, mais je ne crois pas, parce que dès le mois de septembre...
Vous ne pensez pas qu'elle a péché par naïveté quelque part, en restant, en ne choisissant pas son camp?
C'est possible, mais quand même, dès le mois de septembre, elle reçoit des menaces de mort et elle prépare en fait un peu les choses avec ses amis. C'est-à-dire qu'elle envoie des documents en disant « s'il m'arrive quelque chose, je veux que ça vous parvienne », etc. Et donc, il y a peut-être un peu de manque de lucidité, parce que c'est vrai que la situation évolue extrêmement rapidement et qu'elle est difficile à analyser. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment une espèce de volonté de lier son sort jusqu'au bout au peuple syrien. Là, il y a quelque chose vraiment de très très fort, comme d'une volonté presque sacrificielle, quoi, de rester jusqu'à la fin. Voilà.
Ce qui est impressionnant quand on vous écoute, c'est qu'il y a le combat qui est décrit, l'engagement de Razan, et vous, votre engagement, si je puis dire, derrière cet engagement, sans que la jonction se fasse forcément, c'est-à-dire que vous ne reprenez pas forcément ces thèses ou vous ne souhaitez pas forcément développer aussi un combat militant, mais en revanche, vous voulez nous dire, voilà, il y a une attitude qui a été tenue par une personne à un certain moment, et cette attitude, elle est suffisamment exemplaire, enfin, je pense qu'elle représente pour vous l'exemplarité de la conduite, et c'est ça que vous voulez nous montrer pour aujourd'hui, y compris peut-être pour nous-mêmes en Occident.
Oui, je pense que dans l'époque, qui est quand même habitée par une certaine forme de cynisme et de résignation, se tourner vers une figure comme ça, qui est vers cet esprit de résistance, vers cette ardeur, cette éthique, cette vision du monde très libre, Oui, je pense que, enfin, moi, ça m'attire dans le contexte actuel, ça c'est sûr, de façon très forte. Et je pense que c'est ce qui a, c'est ce que, je suis pas la seule. Je veux dire, cette ardeur qu'elle a, c'est ça, une, ça, ça la consume, mais ça a aussi un grand pouvoir de contamination.
Et c'est ce qui nous manque peut-être le plus alors.
Oui, sans doute, ouais.
Il faut dire que derrière les icônes brillent toujours beaucoup. Il reste aujourd'hui encore en Syrie beaucoup de personnes qui résistent à leur tour et qui ont fait le choix de rester sur place, notamment des collectifs qui sont là pour prendre des images de la vie au quotidien en Syrie et pas simplement des images de guerre. Il y a cette bataille de l'image qui est très importante aujourd'hui. Et à ce propos, quelle image vous faites-vous de la Syrie après tout cela? Vous qui racontiez que vous n'aviez pas été avant, que vous n'avez toujours pas été aujourd'hui, quelle image vous vous faites de cette société au-delà de son régime?
C'est-à-dire que là, on est quand même dans une phase qui est vraiment difficile. C'est cette phase où quand même depuis plusieurs mois, depuis même maintenant presque deux ans, on voit ce scénario de façon implacable se met en place d'une victoire de Bachar al-Assad, d'une victoire du récit qu'il a cherché à imposer depuis le début du soulèvement, c'est-à-dire ce récit selon lequel il avait affaire à un soulèvement islamiste coordonné depuis l'étranger. C'est une victoire absolue de Bachar al-Assad et de ce récit qui est en train petit à petit d'advenir. Et donc face à ça, il me semble extrêmement important, c'est-à-dire que la seule chose qu'il ne pourra pas faire disparaître, c'est l'expérience révolutionnaire, qui est là pour le coup en chaque Syrien qui est descendu dans la rue au début pour réclamer la dignité, la liberté, chaque Syrien qui a fait l'expérience d'entendre sa propre voix dans la rue. Ça, c'est fondamental. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est pas premier chez les Syriens. Il y a évidemment un désir extrêmement fort de retour à la normale. Mais je pense qu'il est très important que ça, cette expérience révolutionnaire, son souvenir, sa mémoire, soit cultivée et reste vivace.
Malheureusement, en même temps, il confirme son éternité que dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est-à-dire d'avoir survécu comme ça, alors qu'on le croyait vraiment à beaucoup de moments que le régime n'allait pas tenir pour diverses raisons. Et il est là, il a gagné, enfin, il est en train de gagner.
Oui, sauf que les Syriens se sont réappropriés leur propre histoire, que le travail de documentation, d'ailleurs, continue. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que là-dessus, il y a un changement sur lequel on ne pourra pas revenir.
Et dans cette Syrie, zone de non-droit depuis 2011, ce travail de documentation continue. Elle évoque dans cette vidéo témoignage, elle évoque la trahison de la communauté internationale. On pourrait plutôt parler aussi d'impuissance aujourd'hui de la justice internationale et se dire que tout ce qu'elle a collecté à ce moment-là est protégé quelque part et servira peut-être demain.
Mais c'est déjà en train de servir, en fait. Il peut pas y avoir effectivement de mise en mouvement des grandes institutions internationales à cause des vétos chinois et russes, mais il y a un certain nombre d'affaires qui sont déjà en cours dans un certain nombre de pays européens, dont la France d'ailleurs, quand ça concerne des citoyens français. Il y a également des pays qui ont vocation, qui ont compétence universelle. Donc là, il y a d'autres cas qui sont en cours, en Suisse notamment. Donc tout ce travail de documentation qu'a fait Razan et qu'ont fait des centaines d'autres Syriens, il n'est pas perdu et on peut espérer que l'impunité ne soit pas totale.
Et pour terminer sur vos mots et répondre à demi-mot à votre question tout à l'heure, Antoine Mercier, à Justine Augier, écrire ce livre me mettait dans une situation de responsabilité, dites-vous, responsabilité pour nous sortir de l'instantanéité et de l'oubli qui nourrissent la sidération et la peur, responsabilité des mots qu'on emploie, de ce qu'on fait de la langue, d'œuvre sans relâche pour la garder du côté du vrai. Vous avez pris votre part aujourd'hui, Justine Augier, à travers ce livre aussi?
Je ne sais pas, mais c'est vrai que ce sentiment de responsabilité a été premier dans ma démarche et que j'ai tenté également de mettre en lumière un certain nombre de ramifications entre notre histoire et celle-là pour permettre, me permettre et permettre peut-être au lecteur de trouver sa place dans cette histoire et d'ouvrir potentiellement un questionnement sur la responsabilité individuelle et collective.
Et voilà, c'est peut-être cette double responsabilité que le prix Renaudot Essai a donc voulu consacrer cette année en récompensant votre livre et l'écrivaine que vous êtes pour ce portrait donc de Razan et cette responsabilité que vous avez prise à travers cette écriture. Chaque jour, quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission, mais également nous écrire à la programmation préparation aujourd'hui. Claire Maillot et Chloé Leblond, Clémence Marie et Henri Leblanc, Bertie Bourdon et Maxime Morin. À la réalisation Perry Legras avec Victoria Asper. Un grand merci à vous, Justine Augier. De l'ardeur donc est paru chez Actes Sud. Merci à Antoine Mercier. Très bel après-midi à tous et à demain.